décembre 1982, Rimini.
On me demande de reprendre le lien entre les quatre brisures et les trois alliances. Si on fait, on met en parallèle, comme Saint-Augustin l'a fait, n'est-ce pas ? Saint-Augustin a fait le parallélisme entre les 11 premiers chapitres de la Genèse et puis le prologue de Saint-Jean. Et on comprend très bien, et on pourrait du reste pousser, je ne le fais pas ce soir, mais je le ferai un jour, tous les commencements qui sont dans l'Écriture. Il y a quelque chose de très intéressant et très important à faire. Parce qu'il y a plusieurs fois où on reparle du commencement. La première épître de Saint-Jean, au commencement. Puis les proverbes. Il y en a au moins ces quatre. Mais il y en a un autre que je cherche, que je ne retrouve plus. Mais je sais qu'il y en a un autre. Alors, si je n'ai pas noté, alors ça peut disparaître, ça peut revenir. Si vous le retrouvez, vous me le direz. Mais c'est très important de regarder ces commencements, parce que ça nous aide à comprendre, dans le plan de la sagesse de Dieu, où, de fait, le commencement de la création, facile à comprendre. Le commencement dans l'évangile de Saint Jean, facile à comprendre, c'est le commencement dans l'éternité. Donc vous avez les deux extrêmes. Vous avez dans l'éternité et vous avez sur la terre. Vous avez au commencement, première épître de Saint Jean. Si vous regardez première épître de Saint Jean, vous voyez que c'est le commencement de la rédemption. Donc c'est la croix. Ceux qui ont vu, vous voyez, c'est la reprise de la croix, qui est une nouvelle recréation. Si vous regardez les proverbes, vous voyez que c'est Marie. Alors, c'est les deux premiers, la croix et le fruit de la croix. En philosophie, on dit qu'il y a une première mesure extrinsèque et une première mesure intrinsèque. Hein. La causalité exemplaire joue de deux façons. Et alors, c'est le premier extrinsèque, c'est le mystère du Christ crucifié, qui est cool. Vous voyez, vous avez fait un petit plan comme ça, c'est facile. Dans le premier, la très sainte Trinité, le premier, la création. Bon, ça, c'est les deux extrêmes, on comprend très bien. Vous avez ici la Genèse, et puis ici, le prologue de Saint Jean. Les deux extrêmes. Vous avez ensuite, puisqu'il y a eu le péché, là, il y a une nouvelle reprise de tout, la recréation. Et la recréation, première épître de Saint Jean. C'est le cœur blessé de l'agneau, qui est la recréation à partir de laquelle tout reprend. Ce que nous avons vu du Verbe de vie, ce que nous avons contemplé, première épître de Saint Jean. Et puis, ça c'est le Christ, cause exemplaire extrinsèque. Et Marie, qui est le chef-d'œuvre de la croix, qui est aussi un premier. Alors c'est les proverbes. C'est un premier comme cause exemplaire immanente. Je mets un grand T et un petit T, vous voyez, pour que vous compreniez bien. C'est deux mesures, comme dit saint Thomas. Il y a une mesure extrinsèque et une mesure immanente. C'est très beau du reste, hein? Parce que de fait, vous trouvez dans l'Écriture ces quatre, ça c'est absolument sûr. Hein? Vous trouvez ces quatre, ça fait les quatre commencements, les quatre points de départ, les reprises de tout. Alors on pourrait dire, hein, mais l'Écriture ne dit pas par rapport à l'Église, c'est par rapport à Marie. C'est ça qui est très beau. Hein? Alors si on veut reprendre tout à partir de l'Écriture, c'est vraiment Marie qui est première. Ce n'est pas l'Église. C'est beaucoup plus beau, je dirais, au point de vue profond. Et alors, vous avez vraiment les quatre premiers. La très sainte Trinité, in principio, au commencement, in principio, et puis aussi la sagesse. Donc, vous avez les quatre premiers. Je dis ça, c'est parce que ça nous donne, ça, vous voyez, une lumière très profonde pour organiser de l'intérieur, selon un ordre de sagesse, toute l'Écriture. Vous avez les quatre premiers, et au fond, il faut tout le temps vérifier ces quatre, et par rapport à l'Écriture, vous avez donc nécessairement quatre dimensions, toujours quatre dimensions. Vous ne pouvez jamais penser, au fond, le mystère de la foi sans ces quatre dimensions, sans ces quatre références. La référence à Marie, la référence au Christ,
la référence à la très sainte Trinité, la référence à la création.
Ça, ça donne une structure très très profonde, et c'est indiqué dans l'écriture, hein. Donc une reprise, une théologie mystique doit être avec ces quatre. Si on prend le sommet, c'est le sommet qui éclaire tous les autres. Alors, c'est facile de comprendre, hein. C'est facile de comprendre le premier prologue de Saint Jean. Donc, dans la lumière du prologue de Saint Jean, toute la création est assumée. C'est su, on le voit bien. C'est net ce que je vous avais dit la dernière fois. Quand on regarde verset 9, la lumière véritable, qui est plus exactement juste avant, hein, lorsqu'on voit par lui, tout a été fait, et sans lui, rien n'a été fait. Donc le verset 3 reprend la création, mais la reprend de l'intérieur. Alors, ce que j'essayais d'exprimer, cette chose curieuse, puisque nous retrouvons dans l'écriture toujours ces deux dimensions. La dimension verticale, c'est le prologue de Saint Jean, la création. Ça, ça ne peut pas être plus vertical, hein, c'est le fil à plomb, direct. Et puis, le point de vue du gouvernement. Le gouvernement, Dieu se repose, il laisse l'homme libre. C'est ça que ça veut dire. Dieu est créateur, mais il laisse l'homme avec sa liberté. Il faut bien comprendre que Dieu laisse l'homme avec sa liberté. Premier acte de la liberté de l'homme qui nous est manifesté, hein, c'est la liberté de la femme. L'homme est là, qui se tait. Voulez-vous, il est toujours un peu dans le repos, l'homme pas derrière. D'accord. Alors, premier acte de la liberté de la femme, elle écoute le serpent, séducta est. Premier acte de la liberté de l'homme, séducta est, séduit par le démon. Alors, vous voyez, c'est là où il y a un nouveau commencement. Le commencement du démon, hein. C'est pas un vrai commencement, c'est une chute. Alors, il y a quelque chose quand même, hein. Alors, vous le trouvez apparaître ici, mais on verra dans quelle mesure nous le trouvons aussi dans l'écriture. Il y a un commencement du mal. C'est vrai, il y a un commencement du mal. Le mal a commencé. Le mal en dehors de Dieu a commencé. Et il a commencé dans le cœur du mauvais ange. C'est pour ça que l'Apocalypse, est-ce que l'Apocalypse nous montre un premier, à un moment donné, Dieu le Messie, si vous voulez, hein, pour essayer de comprendre. Donc, première chose, chasser du paradis terrestre. L'orgueil. L'orgueil chassé du paradis terrestre. Hein. Deuxième faute, la jalousie. Qu'en es-tu, Abel ? Troisième faute, alors les deux premières sont des fautes, parce que c'est une théologie de la faute, sont des fautes personnelles. Hein. La femme, le fils de la femme. La rivalité entre les frères. La rivalité entre les frères, c'est donc la jalousie. Puis alors, troisième faute, c'est une faute généralisée. Je ne dis pas que c'est le péché collectif, mais ce serait quelque chose qui pourrait nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de juste dans le péché collectif. Une faute généralisée, c'est que de fait, l'iniquité est généralisée. L'homme n'a plus aucun respect vis-à-vis de l'homme. C'est le troisième moment qui sera le déluge. Mais au fond, Dieu a un dégoût vis-à-vis de l'humanité. Dieu a envie de la vomir, hein. De répudier ce qu'il a fait. Donc il y a une faute collective, ce n'est plus l'orgueil et la jalousie, ça c'est très personnel. Il y a une faute généralisée, c'est le manque de justice. C'est curieux, c'est du côté de la justice, vous voyez. La faute collective, c'est toujours... La faute se généralise. J'aime pas dire faute collective, mais je dirais une faute qui se généralise, une iniquité qui se généralise. On n'a plus le respect de l'autre, d'où le déluge. Noé apparaît, quatrième moment, donc 1, 2, 3, quatrième moment, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est encore une faute qui généralise, ce n'est plus le point de vue de la justice, c'est la domination. On veut dominer. On veut dominer d'une manière telle qu'on n'a plus besoin de Dieu, donc on prend la place de Dieu. Vous avez quatre moments, hein, c'est facile à comprendre. Alors, si nous faisons le parallélisme, saint Augustin ne le fait pas là, mais je pousse tout simplement. Il suffit de se mettre dans la lumière de saint Augustin et faire. On doit prolonger, on doit aller plus loin. Alors, si je fais le parallélisme, je vois qu'à partir du verset 9, alors ici c'est le verset 9, à partir du verset 9, je vois trois alliances. Première alliance, l'alliance fondamentale. Alors, cette alliance fondamentale, elle est très importante parce qu'elle me fait comprendre que le Verbe illumine tout homme venant en ce monde. Il me fait comprendre qu'au-delà de la faute, il y a une alliance qui demeure. L'alliance du Verbe avec l'intelligence humaine. Deuxième moment, seconde alliance, avec le peuple d'Israël. Alors, c'est le mystère de la foi. Donc, on met foi, ici, intelligence. Alors, on voit le parallélisme avec le point de vue de Caïn. Les pères de l'Église ont toujours regardé Caïn comme un symbolisme du peuple d'Israël qui, premier-né, tue Abel, le véritable Abel. Le véritable Abel, c'est Jésus. Par la jalousie, alors au fond, Caïn représente les grands prêtres. Dans le peuple aîné, c'est les grands prêtres qui n'ont pas supporté que le Benjamin passe devant. Comme Caïn n'a pas supporté que le Benjamin passe devant. Et alors les grands prêtres n'ont pas supporté que Jésus, grand prêtre, soit un grand prêtre qui passe devant. Il y a un parallélisme très net, hein, c'est facile à comprendre. Troisième moment, plus difficile à voir, parce que c'est de fait, alors je dirais, ce dernier moment, c'est le mystère de l'incarnation. C'est le point de vue du Verbe devenu chair. Hein. Alors vous voyez la manière dont l'alliance se fait de plus en plus forte. C'est l'alliance avec la fine pointe de l'intelligence. Avec la foi, c'est le cœur profond. Et ici, c'est avec la chair. Les trois alliances successives. Le mystère de l'incarnation, c'est le Verbe devenu chair. Donc c'est l'homme tout entier. C'est pas seulement la fine pointe de son intelligence, c'est pas seulement son cœur profond, mais c'est l'homme tout entier. C'est ça qui est extraordinaire dans le Verbe est devenu chair. Alors, on peut faire un parallélisme entre cette troisième alliance, qui est l'alliance parallèle avec Noé. Or, Noé, selon les pères de l'Église, c'est bien ce qui annonce le Christ. Noé préfigure le Christ. Et l'alliance avec Noé, c'est au moment du déluge, c'est après. Et en fond, toujours, les pères de l'Église ont vu dans le déluge, vous savez bien, comme la préfiguration de toutes les conséquences du péché, l'iniquité du monde. Les eaux du déluge représentent l'iniquité du monde. On est plongé dans l'iniquité du monde et Jésus porte sur lui l'iniquité du monde. Et alors, il reprend tout. Et alors, il n'y a pas de paradis pour le quatrième. Ça, vous avez dit. Et c'est vrai. Quand je fais le parallélisme, je vois que les trois alliances coïncident bien avec les trois fautes, les trois ruptures. La quatrième rupture n'est pas marquée dans le prologue. Alors, on ne peut pas dire que Jean l'a oublié. Hein. Alors, moi, je crois que c'est pour nous faire comprendre.
C'est tout le mystère de l'Apocalypse. Hein. C'est tout le mystère de l'Apocalypse. On pourrait dire que la réponse est l'Apocalypse.
Ça, je crois qu'on pourrait le dire. Étant donné que Jean peut s'unir avec le point de vue de l'Apocalypse, on dirait que ce n'est plus le prologue de saint Jean, mais c'est la Jérusalem céleste. La réponse divine à la tour de Babel, c'est la Jérusalem céleste. Parce que la dernière alliance dans la chair du Christ est une alliance victorieuse de toute l'iniquité du monde. Le Christ, en prenant sur lui la chair, et en étant l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde, est victorieux. C'est l'alliance de la grande victoire. Cette grande victoire ne se manifestera qu'après, et c'est pour ça que Jean ne la donne pas dans le prologue. La réponse à la tour de Babel, c'est la grande victoire de la Jérusalem céleste. Elle n'est pas sur la terre. Il n'y a pas de réponse sur la terre à la tour de Babel. Et alors, c'est vraiment le mystère de l'Apocalypse, c'est la grande lumière de l'Apocalypse qui va nous éclairer sur ce quatrième moment. C'est intéressant parce que ça nous fait en montrer comment l'Apocalypse s'insère dans le prologue.
si je regarde justement le parallélisme avec les 11 premiers chapitres de la Genèse. Parce que ici, c'est les 11 premiers chapitres de la Genèse. Hein. Genèse 1 à 11. Dans cette lumière, hein, vous voyez, dans cette lumière, j'éclaire la Genèse dans la lumière du prologue. J'ai parfaitement le droit de le faire, hein, ça, c'est ça. Non seulement le droit, mais j'ai le devoir de le faire. Hein. J'ai le devoir de continuer ce que dit saint Augustin. Donc si j'éclaire la Genèse par le prologue, je peux dire que la Genèse ponctue l'histoire de l'humanité et que le prologue de Jean nous montre la grande victoire de l'Alliance. Parce que l'humanité, elle est ponctuée par le péché. Et c'est vrai, l'histoire ponctue l'humanité par le péché. Les guerres, les désastres, c'est très net. Hein. Tandis que les alliances ne ponctuent pas l'histoire de l'humanité. Les alliances, c'est relié à la très sainte Trinité. Ça se termine dans le ciel. C'est pour ça que ça se termine dans la Jérusalem céleste. Alors, si je regarde ces 11 premiers chapitres dans la lumière du prologue de saint Jean, je peux dire que ces quatre grandes fautes ponctuent l'histoire de l'humanité. C'est la petite maquette divine de l'économie. De l'économie divine vue du côté de l'homme pécheur. C'est-à-dire vue du côté de l'histoire. Alors, vous avez les grands moments de l'histoire de l'humanité. Chassé du paradis terrestre, c'est quelque chose de capital. On ne comprend rien à ce qui se passe dans l'humanité si on oublie de regarder qu'on est chassé du paradis terrestre. Ce qu'on oublie complètement aujourd'hui. On oublie complètement de regarder que les hommes que nous voyons nous-mêmes chassés du paradis terrestre, c'est important. Parce que ça prouve que nous avons en nous une nostalgie fondamentale de retourner au paradis terrestre. Vous voyez, tout, quand on entre dans un couvent, on pense qu'on rentre dans le paradis terrestre, n'est-ce pas? Et puis au bout de 3 jours, catastrophe, c'est pas ça. On croit que c'est l'Éden, tout a été construit pour nous, mais pas du tout. On voit un numéro au milieu des autres, vous perdez complètement. Alors, oh, l'anonymat de la vie commune, c'est effrayant, affolant, c'est vrai. On a toujours un peu la nostalgie du paradis terrestre. Notre nature humaine, il ne faut pas l'oublier, notre nature humaine, concrètement, a vécu dans la justice originelle. Au plan métaphysique, Adam et Ève est plus proches de nous que nos propres parents. Ça, il faut comprendre ça. Et on peut le comprendre, hein, si on fait de la métaphysique pour ça. Adam et Ève sont plus proches de nous que nos propres parents. Si Adam et Ève sont plus proches de nous que nos propres parents, vous comprenez très bien que nous payons les dettes de notre père. Hein, c'est pas drôle. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite opposition entre les fils et leur père. Hein. Les psychanalystes ne comprennent pas, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas que c'est parce qu'on a été chassé du paradis terrestre. Notre père Adam, il a connu une dignité, une noblesse merveilleuse, et nous avons perdu cela. Et ce n'est pas de notre faute. L'héritage, parce que c'est toujours les querelles de famille, c'est l'héritage, vous savez bien, l'héritage est perdu. Nous n'avons plus l'héritage qu'avaient reçu Adam et Ève. Ils avaient reçu un héritage extraordinaire, l'Éden. Quelque chose de merveilleux. Mais ça a été perdu par la faute. Alors nous avons en nous une nostalgie terrible de retourner au paradis terrestre. Et je crois que cette nostalgie de retourner au paradis terrestre prend des formes différentes, mais c'est la nostalgie la plus fondamentale qui est en nous. C'est tous les messianismes temporels. Et tous les messianismes temporels ne peuvent se comprendre que par ce fait que notre humanité n'a plus le status, l'état de la justice originelle. Vous voyez, c'est là où on voit très bien que la théologie du status d'intégrité est très important à comprendre. Parce qu'elle nous fait, si on regarde ça spéculativement, on dit « Oh, c'est lointain, c'est une spéculation ». Attention, c'est extraordinairement pratique. Parce que si vous ne regardez pas l'état dans lequel vous êtes reliés à Adam et Ève, nous sommes reliés à Adam et Ève, et Adam et Ève, encore une fois, sont plus proches de nous que nos propres parents. Parce qu'ils étaient cause responsable de toute l'humanité. Alors que nos parents ne sont pas responsables de l'humanité. Nos parents, ils ont eu la responsabilité de nous mettre au monde, c'est évident, mais ils ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient. Alors, c'est vrai, s'ils avaient su d'avance, ils ne savaient pas très bien, parce qu'ils ne choisissent jamais. Les parents ne choisissent pas d'avoir tel ou tel enfant. Non, ils désirent avoir un enfant. C'est à l'intérieur, vous voyez, de la procréation. Tandis qu'Adam et Ève étaient responsables, personnellement. Et donc, ils sont beaucoup plus proches au point de vue de la causalité. Ils ont une causalité par rapport à nous qui fait qu'ils sont beaucoup plus proches que nos propres parents. De sorte qu'il y a un lien au plan métaphysique entre nous et Adam et Ève qui est très fort. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais oublier, dans cette petite maquette qui nous est donnée, que dans cette maquette de l'économie divine, chassée du paradis terrestre, on est toujours des exilés. On est toujours des exilés, qu'on le veuille pas, on est toujours des exilés. Vous ne retrouverez jamais un milieu parfaitement homogène à ce que vous êtes. Jamais. Même dans les foyers, vous voyez. Le jour des fiançailles, on se dit on va fonder le foyer le plus parfait qui soit. Oui, oui, attendez. Et vous voyez bien, c'est très beau d'avoir cette nostalgie merveilleuse, c'est très beau d'avoir ce désir, mais on sait que non, c'est impossible, on ne peut pas retourner au paradis terrestre. Le mariage n'est pas un retour au paradis terrestre, c'est un retour à l'état primitif de la fidélité. Ce que dit Jésus. Jésus nous remet avec le sacrement de mariage dans un retour d'indissolubilité du mariage. Et c'est pour ça que le divorce peut pas être accepté par l'Église. À cause de ça. Donc il y a un certain retour, mais pas le status, hein. La fidélité, c'est autre chose. Donc, alors, chassé du paradis terrestre, le peuple d'Israël joue un rôle primordial dans l'économie divine. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, le peuple d'Israël joue un rôle primordial. Il a un rôle très important, parce qu'il met une opposition. Une opposition religieuse, hein, faut pas oublier. Le grand prêtre, c'est les grands prêtres qui ont fait ça. Une opposition religieuse contre le mystère du sacerdoce divin. C'est l'opposition, je crois, la plus farouche qui soit. Entre une espèce de le prêtre veut toujours dominer. Vous verrez ça, vous n'avez qu'à vous rappeler tous les contacts que vous avez avec les prêtres. Hein. Ils veulent toujours un peu dominer les prêtres. Leur défaut mignon. Dès qu'on est prêtre, on se dit maintenant, ça y est, dès le lendemain, pas le jour du sacerdoce, mais dès le lendemain, dès la première messe, on veut dominer. On a un dominium, hein, on veut dominer. Même si d'avance on dit, ah non, moi je serai pauvre. Attention, vous allez voir, ça va repousser avec une rapidité extraordinaire. Et c'est vrai, c'est très vrai que si on regarde attentivement, il nous est montré que c'est le sacerdoce lévitique qui était tellement beau, tellement béni de Dieu, le sacerdoce lévitique voulu par Moïse, le sacerdoce lévitique qui a tué le Christ. C'est pas le bon peuple. Le bon peuple, il s'est laissé mener. Mais c'est le sacerdoce lévitique qui n'a pas accepté que quelqu'un de plus faible passe devant. C'est une rivalité terrible entre l'aspect religieux dans ce qu'il a de plus fort face à l'amour. Ah, c'est quelque chose qu'on devrait réfléchir beaucoup là-dessus, parce que je suis persuadé que c'est une clé, exactement comme chasser du paradis terrestre, c'est une clé. Le sacerdoce lévitique, hein, c'est un sacerdoce religieux au carré. Un sacerdoce religieux au carré parce qu'il est positif. Il est révélé. Mais c'est un sacerdoce religieux. Le sacerdoce naturellement est religieux. Mais là, c'est un sacerdoce religieux voulu par Dieu. Tandis que le sacerdoce du Christ n'est pas premièrement un sacerdoce religieux. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est un sacerdoce d'amour. Et parce que c'est un sacerdoce d'amour, c'est un sacerdoce qui exige que le prêtre soit lui-même offert. Donc il n'y a plus aucun dominium. Il n'y a plus que service. Un service royal pour être plus serviteur. C'est un service royal. qui fait qu'on est vraiment serviteur, complètement serviteur. Alors, je crois qu'il nous démontrait là une clé très importante, que de fait, il y aura toujours une rivalité entre un certain dominium sacré, c'est religieux, donc c'est sacré, un dominium religieux par rapport à ce que représente la pauvreté de l'amour. C'est très important à bien saisir ça. Donc, ça c'est le mystère du Christ et le mystère de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est les deux. Il y a les deux pour la Nouvelle Alliance. Et c'est curieux que les deux, parce que c'est Abel qui meurt, qui est rejeté, et Noé, c'est le législateur. Donc, il y a le sacerdoce et la victime. C'est les deux aspects qui sont présentés. Et qui font l'histoire de l'humanité. Donc on voit que le peuple d'Israël joue ce rôle primordial dans l'histoire. Et tout est repris par le Christ. Et une fois que tout est repris par le Christ, la nouvelle alliance dans le Christ, les trois aspects, la nouvelle alliance dans le Christ fait que, de fait, on vit de la miséricorde. Le sacerdoce d'amour du Christ est un sacerdoce de miséricorde. C'est le sacerdoce du Fils. Tandis que le sacerdoce religieux est un sacerdoce de culte. Pas d'opposition, mais les hommes font toujours une opposition entre les deux. Parce que je peux avoir un certain dominium sur le culte. Sur la miséricorde, je suis au contraire entièrement serviteur. Alors, il faut comprendre que le sacerdoce du Christ est un sacerdoce dans l'alliance de miséricorde. Les hommes ne comprennent pas et eux veulent se sauver eux-mêmes. Alors, je crois qu'on vit actuellement, si on lit un peu les événements, nous vivons ce quatrième moment. C'est le moment de la tour de Babel. Tous les athéismes contemporains sont la réalisation de ce qui nous est montré dans la Genèse comme le dernier moment. Il n'y a plus rien après. Donc on est en face de ce moment particulier de l'humanité qui rejette le Christ. Le Christ comme sauveur, l'humanité rejette le Christ comme sauveur et l'humanité veut se sauver par elle-même. Et le Saint-Père a dit lui-même que c'est la tentation la plus grande. Et j'éclairerai ce que le Saint-Père dit en disant que c'est justement ce quatrième moment qui nous est montré. C'est le moment de la tour de Babel. C'est les hommes qui s'organisent, c'est l'unité de l'humanité, parce que c'est l'unité de notre humanité, qui se fait une, non pas du tout dans la miséricorde et l'amour, un véritable œcuménisme qui viendrait du Christ, mais un œcuménisme de domination qui se fait par l'économie, qui se fait par la science, qui se fait par la technique. C'est la tour de Babel. Et il n'y a plus de place pour Dieu, ça nous est montré, il n'y a plus de place pour Dieu dans l'humanité. Parce que quand c'est l'unité qui se fait par le point de vue de l'efficacité, par le point de vue du dominium, de domination technique et économique, il n'y a plus de place pour Dieu. Alors Dieu est obligé de regarder ce qui se passe. On a un anthropomorphisme extraordinaire de la tour de Babel. Pour relire de temps en temps, c'est tellement extraordinaire de voir ça. Alors vous avez le quatrième moment qui est là pour nous montrer l'ultime moment. Et la réponse à ce quatrième, c'est l'Apocalypse. Vous voyez, on vit absolument cet âge de l'Apocalypse. Où on voit que le quatrième moment, sur la terre, il n'y a pas de nouvelle alliance. La terre, le cheminement de la terre, se termine historiquement par la tour de Babel. C'est pas drôle, hein? Mais historiquement, au point de vue de l'histoire, au point de vue sociologique, le déroulement de l'humanité se termine par la tour de Babel. Mais ça, c'est le regard terrestre, c'est le regard humain. En réalité, ça se termine par la Jérusalem céleste. Parce que l'humanité se termine en Dieu. Le temps de la terre, le cheminement de l'Église sur la terre se termine en Dieu et se termine dans la Jérusalem céleste. Et c'est l'ouverture vers l'éternité. Je crois que si nous sommes attentifs donc à ce qui nous est montré les 11 premiers chapitres de la Genèse, le prologue de Saint Jean et l'Apocalypse, vous avez possibilité de comprendre, c'est une compréhension d'ordre de théologie mystique, mais de comprendre que nous vivons quelque chose de très spécial et c'est indiqué par le pape, la plus grande autorité.
Et c'est indiqué par le pape, parlant aux évêques. Pas à n'importe qui, pas aux enfants, aux évêques. Alors disant, faites attention. Il a dit ça quand il est venu à Paris. Faites attention, nous vivons quelque chose de tout à fait particulier. Et tout l'enseignement du pape est tout le temps pour revenir là-dessus. Oui, pour nous montrer que nous vivons ce quatrième moment, ce dernier moment qui nous est montré dans la Genèse. Alors il ne l'a pas dit, ça c'est très vrai, mais c'est normal qu'il ne le dise pas. C'est le théologien qui doit comprendre ce que le Saint-Père dit pour éclairer le texte de l'Écriture. Parce que nous devons le vivre et nous devons le comprendre. Et alors ça nous éclaire énormément sur ce que je crois il nous est montré. Alors, je termine ce prologue. Alors nous avions vu, car de sa plénitude nous avons tous reçu gratuité sur gratuité, car la loi a été donnée par Moïse. Alors vous voyez que ces derniers versets, c'est autre chose, c'est la comparaison des deux alliances, de ces deux alliances, l'alliance dans la foi et l'alliance dans le cœur profond de l'homme et l'alliance dans la chair, pour nous faire comprendre la grandeur de cette dernière alliance. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu gratuité, grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu unique, un Dieu fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Alors, je crois que c'est très important, au point de vue de notre contemplation, ça. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Si nous ne l'avons pas vu, nous ne pouvons pas le contempler. Il n'y a pas de regard direct. Un Dieu, fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Jésus contemple Dieu dans un face-à-face. Jésus nous est donné pour que par lui, nous ayons un regard contemplatif sur le Père. Notre contemplation, elle est médiatisée par le Christ. De sorte que nous n'avons qu'à toucher le cœur du Christ pour contempler. Nous contemplons, vous voyez, ici sur la terre, c'est le propre du mystère de la contemplation sur la terre, c'est une contemplation qui demeure dans l'obscurité de la foi, donc qui est un toucher. Un toucher dans l'obscurité. Nous touchons le cœur de Jésus. Lui voit. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de chercher d'avoir des belles idées pour contempler. Il suffit d'adhérer à la blessure du cœur de Jésus. Nous adhérons au cœur du Christ. Lui voit. Il voit pour nous. Et donc nous contemplons par lui. Et c'est ce qui nous est donné dans le prologue, vous voyez, au terme du prologue. Alors, dernière petite remarque, avant de quitter le prologue, pour bien comprendre que c'est la charte de la contemplation. Vous voyez que c'est bien la charte de la contemplation parce que ça nous donne à la fois ce qu'est la contemplation et comment contempler. Ce qu'est la contemplation, c'est la révélation du Verbe. Tant que le Verbe n'est pas révélé, on ne pouvait pas contempler directement Dieu, parce que nous ne connaissions pas le fruit de sa propre contemplation. On n'avait pas la lumière qui était la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est le Verbe. Et le comment, c'est à travers Jésus. Lui voit. Et ceci nous fait comprendre qu'il n'y avait pas de vraie contemplation avant la venue du Christ. Il n'y avait qu'une contemplation, si vous voulez, par mode de passage chez les prophètes. Les prophètes ne sont pas au sens absolu des contemplatifs. Alors ça nous ferait peut-être comprendre, voyez, la grande parole de Jésus qui reste toujours si mystérieuse. Jean-Baptiste est le plus grand parmi tous ceux, les prophètes, et le plus petit parmi ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Je crois que c'est la différence entre le point de vue prophétique et le point de vue de la contemplation. Le point de vue prophétique parmi les prophètes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais le prophète, attention, c'est pas le plus grand, c'est le contemplatif. C'est le tout petit enfant qui contemple, le tout petit qui contemple. Il contemple parce qu'il contemple avec Jésus. Il contemple par lui. Notre contemplation, elle vient du Christ. Et c'est pour ça qu'il est le plus petit parmi ceux qui ont reçu le Christ et qui reçoivent le Christ. Recevoir le Christ dans notre vie, c'est contempler par lui. C'est-à-dire le recevoir dans ce qu'il y a en nous de plus cher, de plus profond. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond en nous ? C'est notre désir de contemplation. C'est ce qu'il y a de plus noble en nous, c'est notre désir de contemplation. Recevoir Jésus dans notre désir de contemplation. Et recevoir Jésus dans notre désir de contemplation, c'est justement comprendre que lui contemple et accepter que lui contemple. Et que la contemplation n'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est quelque chose qui nous est donné gratuitement. Si lui contemple, en le recevant vraiment, nous contemplons par lui. Alors ça, c'est nous est donné, vous voyez, la dernière ligne du prologue. C'est magnifique, c'est dans la dernière ligne du prologue qu'il nous est montré comment, on nous a montré la grandeur de la contemplation, tout voir dans le mystère de la lumière du Verbe de Dieu. Et alors, dans la dernière ligne, on nous montre comment nous. Dieu, personne ne l'a vu, un Dieu fils unique qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Jésus nous fait connaître sa contemplation. Il nous fait vivre sa contemplation. Et avec Jésus, nous vivons sa contemplation. Alors, remarquez aussi, parce que c'est encore important à souligner au point de vue théologique, que nous avons deux grands aspects, deux grandes analogies par rapport à la seconde personne de la très sainte Trinité. C'est le Verbe et le Fils. Si je compare le prologue de Jean et le texte de Saint-Luc de l'Annonciation, je vois que Marie reçoit la révélation du Fils par l'ange. Et Jean proclame pour toute l'Église, donc pour nous, le mystère du Verbe. Fils et Verbe. Et à l'intérieur du prologue de Jean, il nous est montré que le Verbe est bien le Fils à partir de l'incarnation. Autrement dit, c'est l'incarnation du Verbe qui nous fait comprendre que le Verbe est Fils. Et ceci rejoint bien le mystère de l'Annonciation. À l'Annonciation, c'est le Fils qui est révélé. Et dans le prologue, on nous montre le Verbe. Vous voyez ? Alors, il y a un cheminement qui est très beau du reste, parce que je crois que c'est quand même quelque chose de très important à souligner, toujours au point de vue économie divine. Hein, nous nous plaçons toujours dans cette perspective que nous demande le Concile, découvrir l'économie divine, faire une théologie de l'économie divine. Alors nous voyons qu'à Marie, c'est le Fils, à l'Annonciation, Marie, à la croix, découvre le Verbe, ce que je vous avais dit au début. Et Marie découvre le Verbe. Et à l'intérieur du Verbe, elle découvre le Fils. Il est dans le sein du Père. Il y a le lien entre le Verbe et le Fils, mais elle découvre le Fils, et par le Fils, elle découvre le Verbe, et elle découvre qu'il est dans le sein du Père. Et c'est ça qui permet à Marie d'être debout. Il y a un axe qui ne bouge pas. Il est dans le sein du Père. Même si à la croix, tout est brisé, visiblement, extérieurement, si le chef-d'œuvre est complètement détruit, il y a quelque chose qui demeure. Ce qu'il y a d'essentiel et principal, il est dans le sein du Père. Il demeure dans le sein du Père. Le Fils demeure dans le sein du Père. Ah, vous voyez comment la théologie, à la suite de l'Annonciation et à la suite du prologue, va prendre les deux grands axes de toute la réflexion sur la seconde personne de la très sainte Trinité. Ici, je fais appel à la théologie de saint Thomas. Pour saint Thomas, il y a deux grandes analogies, l'analogie du Verbe et l'analogie du Fils. Il nous montre comment le Verbe est le Fils. Et vous voyez, quand saint Thomas fait cela, il suit rigoureusement l'Écriture, hein, et il rejoint rigoureusement le prologue de saint Jean. Alors c'est très beau parce que ça nous fait comprendre que tout le traité de la très sainte Trinité est dans la lumière du prologue de saint Jean. C'est le Verbe et le Fils. L'analogie du Verbe, qui est l'analogie première dont saint Thomas se sert, cette analogie du verbe, du logos, si je la pousse jusqu'au bout, je rejoins le Fils. Ce sont les deux grandes analogies. Annonciation, prologue. Oui. Nous allons maintenant voir le second moment de l'évangile de saint Jean. Vous pourrez toujours poser d'autres questions en y réfléchissant, et s'il y en a, je reviendrai. On ne peut pas s'attarder trop. Le second moment, c'est le point de vue de la révélation faite de Jean. Le second moment, c'est l'espérance. C'est ça que je mettrai comme titre. L'espérance eschatologique. Vous voyez, le premier moment, la charte de la contemplation. Et ici, c'est vraiment le point de vue de l'espérance eschatologique. L'espérance eschatologique, elle s'enracine dans le cœur de Jean-Baptiste. Et tel est le témoignage de Jean. Alors vous voyez que c'est très beau ça aussi, de voir comment, dans le prologue, on voit la place de Jean dans la lumière de la contemplation du Verbe et dans la lumière de l'Alliance. On voit la place de Jean. Et ici, on va nous montrer, non plus Jean dans la lumière du Verbe, mais Jean dans le point de vue historique. C'est la place historique de Jean qu'on va nous montrer ici. Autrement dit, après avoir ce regard contemplatif, nous allons regarder Jean. Et tel est le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Juifs lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour l'interroger. Donc, on a une visite canonique. Je crois qu'on peut dire ça. C'est une visite canonique. Une visite canonique de l'Ancien Testament, c'est particulièrement rigoureux. C'est pas une visite canonique de l'Ancien Testament. Parce que nous, il y a toujours un peu la miséricorde, mais comme l'Ancien Testament demeure toujours, les visites canoniques, de temps en temps, sont de l'Ancien Testament. Et alors, c'est intéressant de regarder ce que c'est qu'une visite canonique de l'Ancien Testament. Et elle est à l'état pur, là. Elle nous est montrée d'une façon extraordinaire. La visite canonique, ce sont les envoyés de l'autorité religieuse qui viennent avec un pouvoir juridique pour essayer d'inspecter un tout petit peu ce qui se passe. Il y a quelque chose d'anormal. Tout le monde va vers Jean-Baptiste et personne va vers les grands prêtres. C'est quand même une petite jalousie, hein, terrible, on sait très bien. C'est toujours le mystère de la fécondité qui suscite la jalousie. Il ne faut jamais l'oublier. Sous Salomon, c'est déjà vrai. Alors, on voit très bien que c'est la jalousie. La fécondité de Jean-Baptiste, il y a une fécondité admirable de Jean-Baptiste. Tout le monde va vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste reste au désert. Il reste au désert. Un ermite au désert. N'est-ce pas ? Et tout le monde va vers lui. C'est anormal. Qu'est-ce qui se passe ? Alors on envoie des prêtres et des lévites, des gens qui connaissent leur droit canon, des prêtres et des lévites pour interroger. Qui es-tu ? Mais c'était la dernière question à poser à Jean-Baptiste. Je crois que Jean-Baptiste s'est jamais posé la question « Qui es-tu ?» Je crois. Jean-Baptiste est tellement pauvre que c'est le dernier à se poser cette question. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans le cœur de la pauvreté de Jean-Baptiste. « Qui es-tu ?» Il le reconnut, il ne dit pas, il le reconnut. Moi, je ne suis pas le Christ. Jean-Baptiste au désert savait très bien que tout le monde venant auprès de lui, lui demandait s'il était le Christ. Donc il était habitué à cette question. Tous ceux qui venaient recevoir le baptême se demandaient un tout petit peu, puis de lui poser. Alors, es-tu celui qui doit venir ? Es-tu le Messie ? Es-tu celui qui est l'envoyé de Dieu ? Jean-Baptiste sait bien que c'est la grande inquiétude. Jusqu'à Jérusalem. Vous savez, les ermites sont toujours beaucoup mieux renseignés que n'importe qui d'autre. C'est connu, ça. Ils savent tout. C'est comme dans les Carmels. Ils savent tout, n'est-ce pas, ce qui peut se passer. C'est filtré. C'est très bien filtré dans le cœur de l'ermite. Mais ils savent très bien les questions principales. C'est quand même important comme question, hein, par rapport au peuple d'Israël. C'est toute la signification du peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël est là pour la venue du Messie. Et Jean-Baptiste, lui, sait très bien que c'est la grande question. Moi, je ne suis pas le Christ. Alors, laissez-moi, il a dû... Il faudrait demander au Saint-Esprit la tonalité. Hein. Demander au Saint-Esprit la tonalité grégorienne. Moi, je ne suis pas le Christ. Il renvoie promener. Ils l'interrogèrent. Quoi donc ? Es-tu Élie ? Alors, vous voyez, c'est très très joli parce qu'on voit l'ordre des interrogations et donc l'ordre des inquiétudes. Et par le fait même aussi, vous voyez, si c'est le Messie, c'est quand même très inquiétant que le Messie vienne comme ça. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, à Jérusalem ? Si c'est le Messie, un Messie qui doit venir avec puissance, faisons une alliance avec lui. Tout de suite, alors on envoie ses prêtres et ses lévites. On ne sait pas très bien ce qu'on leur a dit, hein. Mais on soupçonne, on voit bien le climat. Alors, la seconde interrogation, es-tu Élie ? Après le Messie, la seconde autorité, c'est Élie. Elle dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? C'est la dernière autorité. Il répondit, non. Trois négations. Jean-Baptiste se définit par trois négations. Ils lui dirent donc, qui es-tu que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés? On voit très bien leur préoccupation. C'est pas la recherche de la vérité qu'ils cherchent. C'est donner une bonne réponse, de bons fonctionnaires, vous voyez? C'est ça les bons fonctionnaires. Hein? On leur envoie une mission, il faut que la mission soit bien remplie. Peu importe la vérité, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas ça qui les inquiète. C'est pas ça. Ce qui les inquiète, c'est ça. Que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Dis-le, quoi ! Il y a dû avoir un grand silence à ce moment-là. Hein, c'est le père Laverne qui dit qu'il faut respecter dans l'évangile de Saint Jean les silences. Alors c'est important. Il faudrait une fois éditer un évangile de Saint Jean avec les silences. Et ce serait très très beau, ça. Alors, il déclara, « Je suis la voix de celui qui clame dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, selon ce qu'a dit Isaïe, le prophète.